Welcome to our panel discussion.
We are Bienvenue à notre table ronde. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui d'accueillir Kim B. Clark, commissaire du département d'éducation de l'Église, Bonnie Oscarson, présidente générale des Jeunes Filles, et Tom Valletta, directeur des programmes d'études, des séminaires et instituts. Et nous sommes également heureux d'avoir avec nous deux de nos instructeurs de séminaire, Heidi Weed, qui enseigne à Salt Lake City, et Dan Enlund, qui enseigne à Layton en Utah. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Comme nous allons parler un peu de la maîtrise de la doctrine, nous voulions commencer en demandant à Frère Clark de nous expliquer comment nous en sommes venus à ce sujet de la maîtrise de la doctrine, son origine, son objectif, et pourquoi nous avons pris cette initiative.
Avec plaisir, il y a environ un an, on m'a demandé de réfléchir à la façon dont nous pourrions aider la génération montante à gérer les questions qu'ils se posent au sujet de la doctrine, de l'histoire de l'Église, de leur vie et de ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Donc, j'ai commencé à discuter avec diverses personnes et à réfléchir à ce défi. Frère Webb et moi avons passé du temps ensemble à discuter de ces questions. Un jour, il est venu dans mon bureau et a dit « J'ai une idée ». Nous nous sommes assis autour de la table et quand il a commencé à m'en parler, j'ai ressenti l'Esprit du Seigneur. Et je me suis rendu compte que j'étais en train d'écouter une révélation. Il a émis l'idée de prendre le temps du séminaire que nous consacrions habituellement et depuis longtemps à la maîtrise des Écritures et de l'utiliser pour ce qu'il appelait la maîtrise de la doctrine. Et son idée correspond exactement à ce que nous essayons de faire pour aider les élèves, en particulier ceux du séminaire, à gérer les questions qu'ils retrouvent dans différents contextes et y répondre, mais également apprendre comment appliquer la doctrine qu'ils étudient à leurs problèmes et à ceux de leurs amis. Ainsi, l'Évangile ne serait plus seulement quelque chose qu'ils respectent, mais quelque chose qu'ils aiment et dont ils parlent. Ils définiraient la manière dont ils interagissent avec les gens. Ils deviendraient la lentille à travers laquelle ils voient la vie autour d'eux, et ce processus deviendrait un outil important de leur profonde conversion au Seigneur. Je crois que c'est comme cela que ça a commencé. Quand vous verrez la maîtrise de la doctrine, considérez-la comme une révélation. Elle est venue par révélation. Je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Je pense que la vitesse à laquelle cela s'est produit est un miracle. La première fois que nous l'avons présenté à la commission de l'enseignement de l'Église et en avons parlé avec les membres du comité exécutif, ils débordaient d'enthousiasme. C'était pareil avec la première présidence et les membres du bureau. Je pense donc que c'est un programme merveilleux et on en arrive maintenant à la partie intéressante, la réalisation.
Merci. Nous sommes vraiment très reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour lancer cette initiative de la maîtrise de la doctrine. Beaucoup de personnes ont participé, ont enrichi nos conversations et nos décisions. Et en fin de compte, le programme d'études et de la formation qui accompagne la maîtrise de la doctrine. Un grand merci à tous. La première partie de la maîtrise de la doctrine consiste à aider les jeunes à apprendre comment acquérir la connaissance spirituelle. Pas seulement de répondre à des questions, mais de les aider à apprendre comment analyser les renseignements, comment étudier, comment se tourner vers le Seigneur pour apprendre la vérité éternelle. Pourquoi est-ce important de leur apprendre d'abord comment acquérir la connaissance spirituelle avant de répondre à leurs questions?
Nous avons remarqué que lorsque les élèves maîtrisent les principes doctrinaux de base, ils ont le courage de mettre en pratique certaines des idées que nous enseignons dans nos classes de séminaire. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est si important qu'ils puissent s'appuyer sur les principes fondamentaux.
Merci.
Il y a une vieille maxime qui dit « Vous pouvez donner un poisson à un homme ou vous pouvez lui apprendre à pêcher ». Je crois que c'est ce dont il s'agit ici. Nous leur enseignons des compétences qui les nourriront spirituellement pendant le reste de leur vie, au lieu de leur donner simplement une écriture à apprendre par cœur.
C'est un peu ce que j'ai vu dans ma classe quand nous avons testé ce projet. Il me semble que la structure du programme d'études incite à poser des questions. Elle facilite la discussion sur les questions de doctrine. Et avoir enseigné d'abord la leçon sur l'acquisition de la connaissance spirituelle pose la fondation sur laquelle bâtir le reste de l'année quand ces questions sont posées en classe.
Puis-je faire un commentaire ? Je crois que vous avez tous les deux souligné l'importance de la participation de l'élève dans le processus. Je pense que ce que la maîtrise de la doctrine nous apprend, et je crois que c'est vrai pour tous les apprentissages, c'est que le contenu est très utile et pénètre immédiatement dans l'esprit de l'élève. Mais ce qui nous importe, c'est la démarche qu'ils font, parce que c'est cela qui les transforme. Ce qui les convertit au Seigneur, ce sont leurs expériences spirituelles personnelles. Et cela ne s'obtient qu'en recherchant la connaissance spirituelle.
Merci. Frère Valletta, vous vouliez ajouter quelque chose ?
En rapport avec ce qui a été dit, les élèves auront l'occasion de voir des exemples de situations et d'appliquer ces principes maintes et maintes fois. Bien sûr, chaque situation fictive ou étude de cas qu'on leur présentera sera un peu différente et ils devront utiliser les principes qui sont enseignés dans l'acquisition de la connaissance spirituelle. Il faudra qu'ils interagissent d'une manière un peu différente et ils travailleront ensemble. Un élève dira peut-être « Je pense que dans ce cas, j'aurais utilisé ce principe » et un autre abordera le sujet un peu différemment, d'un autre angle.
Donc, en plus d'étudier des principes et des modèles pour acquérir de la connaissance spirituelle, ils étudieront aussi les 9 sujets doctrinaux qui ont été sélectionnés dans le programme d'études « Viens et suis-moi » que nous utilisons également en séminaire. Ils apprendront à appliquer ces principes dans l'étude des sujets doctrinaux. Alors, je suppose que la question suivante pourrait être, quelle valeur a l'étude de la véritable doctrine ?
Oh, est-ce que je peux commencer par une citation que nous avons tous entendue, frère Packer, nous enseigner en différentes occasions ? Il a dit, « La véritable doctrine, lorsqu'elle est comprise, change l'attitude et le comportement. L'étude de la doctrine de l'Évangile améliore plus rapidement le comportement que l'étude du comportement lui-même. » Et je pense que la clé dans tout cela, c'est que la compréhension de la doctrine la fait pénétrer dans leur cœur. C'est quelque chose qu'ils assimilent à ce moment-là et qui se reflétera dans leur manière de vivre l'Évangile et dans leurs interactions avec leur entourage.
Merci. D'autres idées à ce sujet ?
J'en ai une.
Je vous en prie.
Sœur Oscarson a cité le président Packer. Il a employé un mot qu'il a toujours utilisé pour expliquer cela. C'est la compréhension de la véritable doctrine. On vise la compréhension qui se passe dans l'esprit et aussi dans le cœur. Et lorsque cela se produit, alors c'est exactement ce qui se passe. Les élèves apprennent les principes et ils les assimilent. Et je pense qu'ils finissent par comprendre que lorsqu'on agit selon la vérité, on a du pouvoir dans notre vie. Le pouvoir afflue parce qu'on agit selon la vérité. C'est une leçon très importante.
Merci. Je vous en prie.
Je voulais juste dire que je pense que c'est très utile. Lorsqu'ils feront face à un problème, une préoccupation, une question ou à un principe de l'Évangile, qu'ils essaieront de comprendre dans le contexte de toute l'influence du monde, plus ils comprendront la véritable doctrine, plus ils seront à même de reformuler le problème ou la question dans le cadre de la vérité et de l'aborder avec une perspective éternelle.
C'est une très bonne remarque. Merci à tous. Les avis sont tellement divergents dans le monde. C'est vraiment une bénédiction d'avoir cette encre et la sécurité qu'apporte la connaissance de la vérité pour pouvoir étalonner tout ce qu'ils entendent. Merci. Voulez-vous prendre quelques instants pour parler du rôle de l'élève dans tout cela? Je sais que certains s'inquiètent des attentes supplémentaires que nous allons placer sur nos jeunes. Ils vivent dans un monde qui leur demande beaucoup de temps et d'attention. Et voilà une chose de plus que nous allons attendre d'eux. Que diriez-vous de ces attentes accrues et de ce que cela va exiger de nos jeunes?
La première fois que j'ai lu la leçon, l'acquisition de la connaissance spirituelle, quand on m'a demandé de tester le projet, je n'étais pas sceptique, mais un peu dubitatif. Pas par rapport à la nécessité du programme, mais par rapport à l'engagement des élèves que j'instruisais. Se soucie-t-il vraiment d'acquérir des connaissances spirituelles? Lors de la première leçon, leur participation et leur intérêt m'avaient beaucoup impressionné, ainsi que le nombre d'expériences qu'ils avaient eues concernant l'acquisition de connaissances spirituelles. Je pense que c'est là que je me suis rendu compte que ces attentes supplémentaires, ils les veulent bien. Je crois qu'ils sont impatients d'apprendre la doctrine qu'on enseigne et d'apprendre comment l'appliquer aux diverses situations qu'ils rencontrent. Donc oui, on a des attentes un peu plus élevées, mais je crois qu'elles sont désirées.
Merci. Parfois, il est difficile d'attendre de ses élèves qu'ils fassent davantage. Ce que nous avons découvert, c'est que nous devons nous adapter ce que nous leur demandons de faire à leurs besoins. Nous lisons les questions avec eux et nous nous assurons qu'ils connaissent et comprennent la doctrine. Cela devient alors une expérience merveilleuse pour ces jeunes. Ce n'est pas une situation stressante qui les met mal à l'aise. Ce sont mes jours de séminaire préférés, lorsque j'ai l'occasion de m'asseoir avec un élève en particulier et de m'assurer qu'il comprend l'évangile de Jésus-Christ.
Merci.
Ils ont déjà passé du temps sur la maîtrise des Écritures. Il me semble que c'est seulement un degré au-dessus de ce qu'ils faisaient déjà avec la maîtrise des Écritures. Et je crois fermement ce que vous avez dit, que nos jeunes ont un grand désir d'être vaillants dans leur témoignage et dans leur engagement à respecter l'Évangile. Et cela leur donne un meilleur outil pour obtenir une compréhension plus profonde de ces Écritures que la plupart d'entre eux connaissent déjà. Je pense que nos jeunes se hisseront au sommet de nos attentes. Si nous n'attendons rien d'eux, ils n'arriveront peut-être pas à accomplir cela. J'ai dit, il y a 2 ans, dans cette réunion, que si nos attentes sont plus élevées, nos jeunes seront à la hauteur. Et je vous parlais tout à l'heure de ce qui est arrivé aux
exigences et aux attentes supérieures.
Exigences, merci, je ne trouvais plus le mot. Ces exigences supérieures pour l'obtention du diplôme maintenant. Et les statistiques confirment que ces jeunes seront à la hauteur de ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils ont le désir d'être le genre de personne que notre Père Céleste veut qu'ils soient.
Puis-je faire aussi un commentaire? Je pense qu'il y a un autre aspect à cela. Si nous ne plaçons pas la barre plus haut pour nous, c'est-à-dire comment nous enseignons, ce que nous enseignons et ce que nous attendons, nous rencontrerons des élèves, beaucoup d'élèves, qui nous diront « Ah, j'ai déjà vu ça. Ça, je le sais déjà. Y a-t-il davantage ? Parce que ça, je l'ai compris quand j'avais 5, 6 ou 7 ans. Alors, y a-t-il davantage à cela ? Bien sûr qu'il y a davantage. Il y a bien plus encore, et nous devons être prêts à le leur donner. J'ai une petite fille de 5 ans, et cela m'a vraiment surpris, qui a fait une leçon sur Joseph d'Égypte à la soirée familiale. Elle a 5 ans. Certes, elle est précoce, mais quand même. Elle a fait la leçon, et je lui ai demandé, « Eh bien, tu as parlé de la femme de Potiphar ?»« Ah oui, 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 on connaît. » Je pense qu'on parle d'une génération de jeunes qui montent dans l'Église parce que l'Église leur enseigne la doctrine de plus en plus tôt. Et nous devons être prêts pour une génération qui veut davantage. Ils veulent des choses vraiment puissantes. Exactement ce que le président J. Reuben Clark a dit il y a longtemps. Ces jeunes veulent l'Évangile pur. Ils le veulent en termes clairs, précis, réels. Ils le veulent de l'authentique. Et la maîtrise de la doctrine va faire cela.
Et cela va exiger beaucoup de nos instructeurs dans leur préparation, leur étude de l'Évangile et leur érudition. Et leur capacité de répondre aux questions et de diriger les élèves vers les bonnes sources de renseignements. Vous savez, en parlant des élèves, voici notre réflexion. Il est certain qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de cela. Ils l'ont demandé. Il y a quelques mois, Frère Ross était dans une salle de séminaire, il a demandé aux élèves, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser des questions ou qu'on vous pose des questions sur l'histoire de l'Église ou sa doctrine? Et presque toutes les mains se sont levées. Il a commencé à dresser la liste de toutes leurs questions au tableau, et ensuite il a demandé, combien d'entre vous se sentent capables d'y répondre? Ils étaient très peu. Il a dit, si le séminaire pouvait vous aider à répondre à la question, vous permet d'aider quelqu'un d'autre à y répondre, est-ce que ça serait une bonne chose? À l'unanimité, dans cette classe, ils se sont réjouis de cette idée. En fait, il a dit, cela va vraiment vous être bénéfique et utile. Je suis sûr que vous êtes confrontés à cela. Voyons, peut-être une fois par mois environ, ils se sont mis à rire. Il a demandé, c'est plus fréquent? Ils ont répondu, c'est tous les jours. C'est tous les jours sur Internet, à l'école, avec les membres de la famille. Nous en avons besoin parce que nous sommes tout le temps confrontés à cela. Alors merci. Je pense que non seulement ils vont être à la hauteur de nos attentes, mais ils sont aussi personnellement conscients qu'ils en ont besoin et ont hâte de trouver de l'aide. Alors en parlant de nos élèves et des expériences, on pourrait peut-être demander quelques explications à Sir Weed et Frère Edlund qui ont testé le projet. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience avec la maîtrise de la doctrine, réaction des élèves, le profit qu'ils en ont tiré?
Cet essai dans notre classe de séminaire a été une bonne expérience. Ce que nous avons fait après la première journée, c'était de demander à quelques élèves de prendre des notes en direct pendant que nous faisions l'expérience, pendant que nous invitions les élèves à s'engager. C'était plaisant de lire leurs commentaires après coup, lorsqu'ils ont pris conscience de cet engagement à s'investir davantage dans les Écritures, à y réfléchir, à les analyser et à les appliquer dans les situations de leur vie courante. Lorsque nous avons enseigné ce modèle d'acquisition de la connaissance spirituelle et le leur avons fait appliquer à des sujets de l'Évangile.
Voilà une expérience en particulier qu'une jeune fille a racontée en classe pendant que j'enseignais la leçon sur l'acquisition de la connaissance spirituelle. Ses parents étaient divorcés et elle se posait la question que beaucoup de jeunes de nos classes se posent, à mon avis, sur le fonctionnement des scellements. Avec qui serait-elle dans les éternités et comment tout cela va-t-il s'articuler? Et elle a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle a dit, je me posais cette question depuis le divorce de mes parents. Elle a expliqué, j'ai décidé de trouver moi-même une réponse. Donc elle est allée chercher dans les Écritures. Elle a dit que ça lui avait pris du temps. Mais un soir, pendant qu'elle lisait Doctrine et Alliance, ce verset a tout simplement tout doute de son esprit. Elle ne nous a pas dit de quel verset il s'agissait. Je ne pense pas que c'est à cela qu'elle voulait en venir. Mais voici ce qu'elle a dit. Dès que j'ai lu cette écriture, j'ai su que Dieu avait répondu à ma question, dissipé mon doute pour le moment. J'ai trouvé cela profond, elle a dit. Si à l'avenir, ces doutes reviennent, je connais la marche à suivre. Et j'ai trouvé cette réflexion très profonde de la part de cette jeune fille de dire qu'elle en savait assez pour l'instant pour vivre conformément à cette connaissance. Cela revient à ce que Frère Roland vient de dire, n'est-ce pas? Nous nous accrochons à ce que nous savons. Nous nous accrochons à la foi que nous avons jusqu'à ce qu'une lumière supplémentaire, une connaissance supplémentaire arrive. Et c'était inspirant pour les autres élèves et pour moi-même de voir cette jeune fille vivre cela et l'appliquer dans sa vie. Et c'était inspirant pour les autres élèves et pour moi-même.
Merci. Vous savez, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Parce que justement, la semaine dernière, je parlais à une élève de séminaire chez moi. C'était pas prévu, mais il se trouve que ma fille est dans l'une de ses classes pilotes. Je lui ai demandé comment elle trouvait la maîtrise de la doctrine. Elle a dit, j'adore. C'est tellement plus utile que la maîtrise des Écritures. Et je lui dis, de quelle manière? Sa réponse tenait en un mot. C'est pertinent. C'est pertinent. En fait, ça fait trois mots. C'est pertinent. C'est pour cela que c'est utile. C'est important pour moi parce que ça me donne des éléments. Merci beaucoup d'avoir dit cela. D'autres sujets? Idées sur le sujet?
Permettez-moi de mentionner que ces passages de la maîtrise de la doctrine sont liés aux énoncés principaux de la doctrine. Après avoir examiné tout le sujet doctrinal, les élèves regardent ensuite les énoncés précis de doctrine. Les jeunes ne doivent pas se contenter de penser « bon, cela doit être vrai puisque mon instructeur du séminaire ou quelqu'un d'autre me l'a enseigné ». En fait, ils ont des déclarations tirées des Écritures et beaucoup d'autres passages au fil de leur apprentissage, comme les paroles des prophètes qui les aident à comprendre ces énoncés principaux de la doctrine et à les lier étroitement les uns aux autres. Donc le premier, par exemple, dans la divinité est Hébreux 12:9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Les jeunes n'oublieront jamais ce passage en étudiant cet énoncé principal de la doctrine. Lorsque quelqu'un leur demandera « Comment le sais-tu ?», ils pourront citer beaucoup de sources, depuis le cantique « Je suis enfant de Dieu » jusqu'à ce passage de Paul dans Hébreux, qui enseigne que oui, notre Père céleste est le Père de notre esprit. Et cela est très bien enseigné. En examinant les situations fictives, ils verront diverses manières de l'appliquer et de l'enseigner.
Vous savez, c'est tellement important, parce que nous avons entendu beaucoup d'élèves qui ne peuvent répondre à toutes les questions du test, n'est-ce pas? Ils savent ce qu'enseigne la doctrine, ils connaissent même de nombreuses références d'écriture, mais devant une situation ou une question, ils font pas toujours la relation entre ce qui se passe et la doctrine qu'ils ont apprise. Donc, d'après ce que vous venez de dire, je pense qu'il est bon que les instructeurs comprennent que c'est aussi l'occasion d'associer ce principe doctrinal avec une situation de la vie courante ou une étude de cas, afin que les élèves fassent la relation et en tirent profit dans la vie de tous les jours.
J'ajouterais que ces situations fictives doivent être pertinentes. Plus elles le seront, plus les élèves, à mon avis, auront une chance de s'identifier à elles et voudront continuer d'étudier la maîtrise de la doctrine. C'est peut-être là qu'adopter et adapter le programme d'études entre en ligne de compte. Si on a un exemple pour s'entraîner qui est un peu différent de celui du manuel, mais qui est le vôtre ou celui d'un élève, je crois que c'est la meilleure formule.
Oui, nous sommes entièrement d'accord. En fait, nous espérons que vous verrez les jeunes commencer à apporter leurs problèmes, leurs questions, leurs cas de figure réels. Et vous pourrez travailler avec eux à y répondre en classe, en reformulant la question ou le problème dans le contexte d'une perspective éternelle. C'est excellent. Nous pensons que c'est la façon de procéder.
J'ajouterai qu'en regardant le programme d'études du dimanche pour les jeunes, « Viens, suis-moi », je suis heureuse de voir comme ils se font écho et se complètent bien. Dans leur leçon du dimanche, ils apprennent à raconter des exemples de leur vie courante et à en témoigner. Ils vont être très bénis de faire cela à la fois au séminaire et le dimanche. La première fois que vous m'avez présenté ce nouveau programme, j'ai ressenti la même inspiration. J'ai senti que c'était une révélation. C'est la prochaine étape dont nos jeunes ont besoin.
Merci, très bien. Revenons quelques minutes sur le rôle de l'instructeur. Qu'est-ce que vous diriez d'autre à ce sujet, au sujet de ce qui est requis de nos instructeurs pour bien faire cela?
Frère Ballard nous a chargé de faire grandir notre connaissance de l'Évangile. Nous devons être mieux préparés que jamais à répondre aux questions difficiles que nos élèves nous posent. De plus, nous devons connaître ce processus sur le bout des doigts. Nous devons en faire nous-mêmes l'expérience de manière à en rendre témoignage et peut-être la raconter étape par étape des occasions où nous avons acquis de la connaissance spirituelle et ainsi nous pouvons être prêts lorsqu'ils arrivent en classe avec des questions difficiles.
Je dirais simplement se préparer. J'ai le sentiment que le temps où nous pouvions rentrer dans la salle de classe, mettre une poubelle sur le banc du piano et faire des paniers pendant qu'on parlait de la maîtrise d'écriture est révolu. Il m'a fallu me préparer. Bien me préparer. Parce que ce sont vraiment, il faut les appeler des expériences, mais ce sont vraiment des mini-leçons. Donc il y a davantage de travail à fournir en amont. Mais ce n'est pas très différent de l'enseignement séquentiel des Écritures pour ce qui est de dégager les énoncés doctrinaux. Nous savons très bien les dégager. Nous les comprenons. nous nous entraînons à les enseigner. Le déroulement de l'enseignement est identique à celui d'enseignement séquentiel des Écritures, mais il y a davantage de préparation en amont, à mon avis.
Merci. Une autre question au sujet des études de cas et des situations fictives que nous avons mentionnées. Et peut-être, frère Clark, je pourrais vous demander de poser la question. Vous enseignez si bien à l'aide d'études de cas. Je vous ai vu faire de façon très percutante avec ce genre d'outils pédagogiques. À votre avis, quel est l'intérêt d'utiliser des études de cas et des situations de la vie courante pour aider les élèves à faire la relation entre la doctrine et leur vie?
Deux mots me viennent à l'esprit qui ont déjà été employés dans notre conversation. Le premier est pertinent. Vous choisissez des cas auxquels les élèves peuvent vraiment s'identifier. Ils les rencontrent. Je crois que la documentation produite répond bien à ce critère. Des cas qui sont très pertinents pour eux. L'effet obtenu est que cela rend la chose intéressante. Et ainsi, vous obtenez le deuxième mot, c'est-à-dire la participation. Les élèves prennent vraiment la documentation à cœur et il se passe deux choses. L'une est la situation elle-même. À mesure que vous vous immergez dans cette situation, vous commencez à vous demander, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Ce qui se passe dans l'esprit des élèves, c'est qu'ils s'imaginent dans cette situation et ils commencent à répéter mentalement, eh bien oui, qu'est-ce que je ferais? Cela leur permet de commencer à se mettre en phase avec l'esprit qui vient leur enseigner. Eh bien, voilà ce que tu devrais faire. L'autre résultat, c'est que la doctrine prend vie. Elle devient réelle. Ce n'est pas une case qu'ils ont cochée en disant « oui, ça, je le sais ». Maintenant, elle devient réelle. Elle devient un outil qu'ils peuvent utiliser dans leur vie. Et je pense que nous pouvons les aider à réaliser qu'ils n'apprennent pas ces choses simplement pour savoir à peu près quoi faire si quelqu'un leur pose une question demain matin. C'est plutôt, et si quand tu seras mère, tes enfants se posent ces questions, cela va être puissant, tu sauras quoi faire. Ou quand tu seras missionnaire et que tu auras des amis de l'Église, tu te sentiras à l'aise parce que tu te seras imaginé dans des situations de la vie courante. Et tu y auras réfléchi. Je pense que c'est une partie vraiment importante. L'autre résultat, et vous en avez déjà parlé tous les deux, c'est que vos élèves se parlent, qu'ils interagissent les uns avec les autres. Cela veut dire que vous devez être confiant que vos élèves vont vraiment le faire. Mais ils le feront. Alors vous pouvez, l'instructeur peut, au lieu de dire des choses, devenir celui qui pose les questions. Vous pouvez résumer un peu, mais vous pouvez aussi dire, « Alors Sally, que penses-tu de ce que Billy vient juste de dire ?» Et Sally répond, « Je pense que ce n'est pas ce que je ferai. » D'accord, et pourquoi pas? Et que penses-tu de cela? Et très vite, les élèves se parlent les uns aux autres et la pièce est pleine d'énergie. Parce que le Saint-Esprit vient et les informe de ce qu'ils font. C'est un moyen puissant de faire participer les élèves à un processus qui sera une bénédiction dans leur vie à tout jamais.
Merci. Alors peut-être une autre question. Beaucoup de modifications ont été faites dans les séminaires et instituts ces dernières années. Il peut être difficile d'accepter de faire davantage ou de faire différemment ou de changer quoi que ce soit. Avez-vous des conseils à nous donner à l'aube de ce nouveau changement?
J'ajouterais que lorsque vous parliez de changement, cela m'a fait penser à Doctrine et Alliance 42-61. Tu recevras révélation sur révélation. Le royaume de notre Père Céleste est bâti sur la révélation. Il y a davantage de lumière et de connaissances, de plus en plus brillantes, d'après ce que dit la section 50. Il semble que nous allions dans cette direction. Je dois avoir la foi, en tant qu'instructeur, de m'efforcer non seulement de réagir, mais de bien réagir au changement, de m'efforcer d'allonger la foulée dans la direction que le Seigneur veut que nous prenions. Je dois faire preuve de foi et ne pas râler en disant qu'il s'agit encore d'un mouvement de balancier. Mais je dois avoir la foi de dire Si notre Père Céleste pense que nous pouvons y arriver, cela va certainement fonctionner. Du genre « j'irai, je ferai ». Les instructeurs comme ces deux-là qui ont fait l'essai et ont avancé avec foi ont été bénis. On entend l'enthousiasme dans leur voix.
Merci beaucoup.
Pourrais-je ajouter que tous ceux qui travaillent avec les jeunes savent que le monde change et qu'ils sont exposés à des philosophies et à des idées, ne serait-ce qu'avec l'explosion de l'Internet et des réseaux sociaux. Ils sont exposés à davantage d'influences négatives que jamais auparavant dans l'histoire du monde. Et c'est une manière d'allonger la foulée pour les aider à faire face à ces difficultés. Nous devons continuer de changer. Nous devons continuer de progresser. Nous devons continuer d'améliorer notre manière d'instruire et d'interagir avec nos jeunes afin qu'ils puissent affronter ces problèmes. Je pense que la plupart des instructeurs vont être ouverts à cela.
Je dirais aux instructeurs et à chacun d'entre nous qu'il faut s'y faire. Cela va se produire. Il faut s'y faire. Dieu avance avec pouvoir dans son royaume. Et les choses vont changer. Elles changent déjà. Et elles vont continuer de changer, parce que nous devons préparer le royaume de Dieu pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et on n'y est pas encore. C'est évident. Et nous allons continuer de voir de plus en plus de changements. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que lorsque des changements comme celui-ci surviennent, il est très important que nous nous posions tous deux questions. Que devrais-je changer? Quelles sont les choses que je dois changer? Mais vous devez aussi vous demander, qu'est-ce qui ne doit pas changer dans ma manière de réagir à cela? Donc, par exemple, dans la maîtrise de la doctrine, oui, certaines choses doivent changer. Nous avons parlé de quelques-unes d'entre elles. Mais il y a certainement des choses qui ne doivent pas changer. N'abandonnez pas les choses que vous savez très puissantes dans votre façon personnelle d'aborder les élèves, votre amour pour eux, l'Esprit du Seigneur dans votre classe, votre témoignage, le témoignage pur que vous rendez, fondé sur vos expériences. Vous savez, cela ne change pas. L'Évangile ne change pas. C'est simplement notre manière de faire participer les élèves et l'emphase thématique au sein d'une étude séquentielle des Écritures que nous allons donc devoir changer. Certaines choses, mais il y en a beaucoup qui ne changent pas. Vous devez les conserver et vous assurer que lorsque vous entrez, chaque jour, dans cette salle de classe, l'Esprit du Seigneur est avec vous. Si vous le faites et si vous utilisez cette excellente documentation, tout ira très bien.
Merci. Avant de terminer, Sœur Oscarsson, aimeriez-vous nous dire quelque chose, sachant que vous priez tous les jours pour des centaines de milliers de jeunes filles qui sont assises dans nos classes de séminaire et que vous avez été instructrice de séminaire matinal. Avec cette expérience, connaissant le potentiel de ce projet, voulez-vous nous faire part de vos sentiments à ce sujet, nous parler des jeunes filles et même des jeunes gens qui sont dans nos classes?
Je pense que nos jeunes sont plus remarquables que toutes les générations précédentes que j'ai pu observer. Je pense qu'ils ont le désir de faire ce qui est juste et je pense qu'ils comprennent mieux leur identité. Vous avez parlé de votre petite fille de 5 ans qui a fait la leçon à la soirée familiale. C'est le genre de jeunes qui arrivent dans nos classes aujourd'hui et je me réjouis à l'idée que nous allons allonger la foulée pour les aider à comprendre comment appliquer la doctrine de Jésus-Christ à leur vie et à leur situation personnelle. Pour la saisir, ce ne sera plus un principe abstrait. Cela va vraiment être quelque chose qu'ils vont prendre à cœur et apprendre. Je suis tellement reconnaissante de la révélation continue que nous recevons dans l'Église, qui est une bénédiction pour nos jeunes et les fortifie. Je suis ravie de ce qui va se passer avec cette maîtrise de la doctrine.
Merci beaucoup. Et frère Clark, voulez-vous prendre la parole en dernier, nous dire ce qui vous tient à cœur?
Comme je l'ai dit au début, je pense que c'est une révélation. C'est le Seigneur qui nous met dans une position pour instruire et faire progresser la génération montante et d'une manière plus puissante que jamais. Nous savons que lorsque nous sommes en harmonie avec le Seigneur et que nous suivons ses indications et sa révélation, nous en obtenons davantage et notre perception s'améliore. Vous avez déjà commencé à le constater. Je pense donc que c'est une excellente innovation et que ce sera une grande bénédiction pour nos instructeurs et pour nos élèves. Et je pense que ce sera un grand bienfait pour vos familles. Parce que vous avez tout intérêt à intégrer cela dans votre foyer. Vous savez, si vous avez encore des enfants à la maison ou des petits-enfants, vous pouvez vous en servir avec eux et tout le monde en bénéficiera. Je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que Chad a dit. Je suis quasiment certain que Sir Oscar s'entraîne également pour les jeunes gens. Parce que les jeunes gens doivent épouser les jeunes filles. Ils doivent tous se préparer à devenir des mères et des pères dans une famille éternelle. Et si nous gardons cela à l'esprit et prenons conscience de l'objectif réel de Dieu, tout ira bien. Nous vivrons une belle expérience avec ces jeunes, parce que ce sont d'excellents jeunes, de merveilleux jeunes, mais ils ont besoin des indications, des conseils, du soutien, des encouragements, de la force, de quelqu'un qui est un peu plus avancé sur le chemin, qui connaît le Seigneur et peut témoigner de son sacrifice expiatoire divin et merveilleux. Et qui apporte tout cela en classe, tous les jours, avec un sentiment d'amour pour eux et qui les édifie. Et c'est ce que vous ferez. Et maintenant, vous aurez un superbe outil pour le faire. De grandes bénédictions pour tout le monde.
Merci. Un grand merci à tous. C'était formidable d'être avec vous aujourd'hui.